Merci Antoine Denecher et bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes dans les studios de France Bleu Azur à Nice. Ils sont situés place Grimaldi. Ça tombe bien pour parler de Monaco. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert. Bon, ça va Yvon, t'es prêt? Fais voir ton costume. Ouais, d'accord. Oh, mais regarde ton nœud papillon, c'est pas possible. Tiens, voilà. Bon, redresse-toi. Un peu de tenue. L'air assuré. On va au casino.
On finit la mène, 105 ans.
Bonjour messieurs. Et mesdames.
Oui, alors Maggie, Denise, Blaise et Freddy.
C'est alors, ici le casino?
Comment?
C'est ici le casino?
Oui, mais ça, c'est pas le casino, mais c'est un tripot gentil. Allez.
On parle pas beaucoup. On surveille. Parce qu'il y a de la monnaie en jeu. Et voilà, on a gagné. Dedans. 3,10, 3,30.
On est monté à 105 ans. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir?
Eh bien, qui est le croupier?
Il n'y a pas de croupier, là. On joue à la coinche, il n'y a pas de sous en jeu.
Il n'y a que du liquide, on ne fait pas de chèque.
Et on joue la belote bio. Enfin, moi, je la joue, et j'essaie de la faire jouer à tout le monde, mais ils ont la tête dure. Parce qu'à Monaco, ils jouent n'importe quoi. Ils jouent la belote sans la belote, à Monaco.
Et surtout, à Monaco, ils jouent beaucoup d'argent.
À Monaco, c'est spécial, hein, Monaco. C'est le plus petit pays du monde après la cité du Vatican. Je sais pas, il y a des sous qui arrivent de toutes parts dans le monde. Ça arrive à Monaco, puis ça part un peu au Liechtenstein, ça part un peu partout. Mais c'est pas de blague. Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé.
Bon, alors ici, au Cercle des Salines, oui. Qui est le club du Cap d'Ail, juste à côté
voilà,
de Monaco.
On joue
pour beaucoup, vous êtes des retraités de Monaco. Vous avez travaillé beaucoup tous à Monaco.
Sauf moi. Monsieur et madame ont travaillé à Monaco. Mes parents ont travaillé à Monaco. Et même, je vais vous annoncer une anecdote, c'est maman qui faisait les chaussettes au prince Louis II. C'est maman qui avait la mesure des chaussettes du prince Louis II et qui les faisait. Elle était tisseuse mécanicienne avec du DMC, le fameux fil qui s'appelait DMC de l'époque. C'est vrai que tout le monde a un peu une histoire. Tout le monde ici travaillait pour Monaco et à l'époque, c'était comme ça. Voilà.
Premier week-end de printemps sur la Côte d'Azur, la carte postale de Monaco met ses couleurs à jour. Dans les ruelles du Rocher, les touristes exhibent leurs mollets encore blancs et dégrippent leurs appareils photos. Alors on mitraille le palais et ses gardes flegmatiques, on vise les Ferrari rutilantes et les yachts pharaoniques, on est à l'affût de quelques sorties princières ou de vedettes du showbiz. Indifférents à ce jeu de rôle, les travailleurs de la principauté, eux, s'affairent tranquillement. Il y a ceux qui érigent les gradins du Grand Prix de Monaco, départ dans 3 semaines, les jardiniers qui recoiffent les pelouses, les serveurs qui dressent les terrasses et les grooms qui redorent leurs boutons. Car il existe un Monaco laborieux, un Monaco populaire, et c'est celui que nous allons visiter ensemble ce soir avec vous, Yvon Gasteau. Bonsoir.
Bonsoir.
Historien de l'époque contemporaine, professeur à l'université de Nice Sophia Antipolis. Vous avez aussi personnellement grandi tout près de Monaco, à Beausoleil, qui est l'une des 3 communes françaises autour de Monaco. D'ouest en est, il y a Cap d'Ail, La Turbie, Beausoleil. On est en fait dans l'ancienne ceinture rouge, la banlieue rouge de Monaco.
Oui, la ceinture rouge de Monaco. Effectivement, il y a 2 communes qui ont été pendant longtemps administrées par des maires communistes, Beausoleil et Cap d'Ail. Ça a été une longue période, une période intéressante qui montre les contrastes entre la principauté en elle-même et ses communes environnantes qui sont toutes proches, parfois imbriquées, et qui quelque part ont rassemblé une grande partie du peuple travaillant sur place.
Le rouge est une couleur que la principauté affectionne particulièrement.
Voilà, un rouge de plusieurs colorations, de plusieurs tonalités, mais effectivement il y a cette cohabitation assez intéressante.
Alors à ma connaissance, Roquebrune, à moins que je me trompe, n'a jamais été communiste. Bonsoir Christophe Glasser.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Alors Roquebrune, c'est un peu plus à l'est en allant vers Menton. Vous en êtes originaire, vous êtes secrétaire national de l'Union des syndicats monégasques. Qui sont ces syndicats monégasques ? Est-ce que ce sont les mêmes qu'en France ? Est-ce qu'il y a une CGT monégasque, par exemple ?
Il y a une histoire effectivement toute particulière avec la CGT, hein, puisque Louis II a fait appel aux responsables de la CGT de la région voisine pour créer les syndicats à l'issue de la libération, hein, donc juste après-guerre et dans cette euphorie, et où forcément il était obligé d'en passer par là, puisque le Front populaire poussait, parce que les gens s'organisaient depuis longtemps. Même si jusque-là, c'était interdit à Monaco. Et en effet, voilà, je suis de Roquebrune. Et Roquebrune, qui est aussi une commune limitrophe. Voilà, c'est Roquebrune, c'est Cap d'Aille, c'est La Turbie, c'est Beausoleil. Et c'est là où on retrouve effectivement la masse des travailleurs qui résident.
Alors, quel corps de métier représente l'USM, l'Union des syndicats monégasques ?
Alors l'USM, c'est 39 syndicats professionnels différents. Ça va de tout, c'est-à-dire du croupier, ce qu'on appelle Baccara, les croupiers les plus connus et reconnus. Ça va à l'industrie, ça passe par les banques, on passe par le nettoyage, les agents de l'État et de la commune, mais bien d'autres que je vais oublier de citer. Mais voilà, ça reflète vraiment le panel et la mosaïque des secteurs professionnels à Monaco.
Et vous-même, vous y avez exercé quel métier ou vous y exercez quel métier ?
Sur Monaco, j'étais avant ce qu'on appelle employé d'immeuble. Voilà, et je suis rentré petit à petit en tant que salarié à l'Union des syndicats de Monaco, puisque c'est un peu particulier. Et je suis aujourd'hui, comme vous l'avez dit, secrétaire donc général.
Entre parenthèses, je crois que vous aussi, Yvan Gasteau, vous y avez fait des petits boulots à Monaco.
Oui, moi j'ai travaillé il y a assez longtemps maintenant dans une usine. Je travaillais à la chaîne pendant l'été.
Il y a des usines à Monaco.
Oui, par exemple Lancaster, une usine de cosmétiques. Et je crois qu'il y a une carte postale, on pourrait dire une image qui fige les esprits. C'est cette arrivée le matin à la gare de Monaco de centaines et de centaines de travailleurs qui viennent donc dans ces lieux de travail, principalement sur le quartier de Fontvieille, qui est un quartier industriel de la ville.
Christophe Glasser, il paraît qu'une ordonnance princière oblige le secrétaire général de l'USM à avoir la nationalité monégasque. Est-ce que c'est votre cas ?
Non, en effet, ce n'est pas mon cas. C'est des vieux textes, tout de même. Ceci étant, nous, on conçoit que la liberté, c'est la liberté syndicale. Et qu'à ce titre, l'Union des syndicats de Monaco, dans ses derniers statuts, n'a plus prévu que le secrétaire général soit un monégasque, puisqu'aussi Monaco, il faut savoir que 80%, 85% des salariés ne sont pas monégasques. Donc par rapport à ça, on a souhaité, l'organisation syndicale a souhaité respecter ces statuts qui lui paraissent beaucoup plus logique.
Voilà, donc il ne suffit pas d'avoir travaillé toute sa vie à Monaco pour en obtenir la nationalité, il ne suffit pas d'y vivre pour en avoir la nationalité, ni encore d'en être amoureux.
Donc nous sommes en face de cette principauté qui est le deuxième plus petit état au monde après le Vatican, avec ses 202 hectares. Mais ça n'a pas toujours été ainsi, parce que si on part du XIVe siècle jusqu'en 1861, la principauté de Monaco a été constituée de Monaco proprement dit, mais également de Menton et de Roquebrune. Ça faisait un territoire de 24 km². Et ensuite, suite à des événements de 1848, Menton et Roquebrune nous ont abandonnés et nous nous sommes retrouvés avec un petit territoire qui mesurait plus que 2 km².
D'ailleurs, peu de guides au monde peuvent se targuer, Jean-Marc Ferrier, de pouvoir faire visiter leur pays en quelques heures. Alors là, on s'est installé devant le Fort Saint-Antoine, d'où, en tout cas depuis les petits jardins du Fort Saint-Antoine, on a une vue surplombante, en tout cas générale à peu près, sur Monaco. On a une vue, mais on entend c'est le son des travaux. Ça doit être un son assez permanent, en fait, ici.
Beaucoup de gens de locaux se plaignent effectivement de tous ces chantiers qui sont faits en même temps. Mais il ne faut pas oublier quand même que la première urbanisation de la principauté, si on peut parler ainsi, on le doit au premier château, un 10 juin 1215, lorsque les Gibelins sont arrivés de Gênes pour construire cette forteresse. Et puis depuis, ça n'a plus eu de cesse d'avoir des travaux à Monaco.
Alors qu'est-ce qu'on construit en ce moment-là? Ou qu'est-ce qui est apparu dans le paysage récemment? Déjà cette grande tour au reflet bleu.
Donc cette tour, c'est la tour Odéon, c'est la dernière tour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au dernier étage, il y a un triplex et même un quadruplex qui est à vendre. Donc si vous voulez acheter, on dit que la seule vente de cet appartement, ça pourrait rembourser les grosses œuvres de la tour.
55 000 euros au mètre carré.
Voilà, absolument. Et ça me donne lieu à vous dire que Monaco est le pays le plus cher au monde au point de vue immobilier, devant Londres et devant Shanghai.
Jean-Marc Ferrier, vous êtes vous-même un enfant du pays.
Pour parler de moi, eh bien, mes arrière-grands-parents ont émigré d'Italie au début des années 20, comme il y avait beaucoup à cette époque-là. Ma mère est née à Monaco, je suis né à Monaco, donc on a quand même une dynastie, bientôt 100 ans de dynastie à Monaco.
C'est une gageure d'établir ses racines sur un rocher.
Oui, voilà, absolument. C'est vrai que c'était ma terre d'enfance, donc j'ai bourlingué dans les ruelles avec les copains, les jardins Saint-Martin, Monacoville. C'était mon lieu favori. Et donc pour moi déjà, Monte-Carlo, c'était l'étranger, c'était loin, très loin. J'ai découvert la France lorsque j'ai pu avoir une mobilette.
La ville change, mais il demeure les goélands qui sont partout.
Les goélands, ils sont au jardin Saint-Martin. Allez, on va dire ce que les moineaux sont à un jardin. Mais il faut faire attention parce qu'ils sont quand même assez voraces. Et pour protéger leur progéniture, ils n'hésitent pas de temps en temps à foncer sur les gens. On n'est pas dans Alfred Hitchcock, les oiseaux. Mais n'empêche qu'il faut quand même faire attention.
Alors c'était ici que le petit Jean-Marc Ferrier venait jouer, avec qui?
Eh bien justement dans ces jardins où le petit Ferrier Jean-Marc venait s'épanouir, c'était la population locale, c'était mes amis de classe, c'était leurs parents, mes parents, ma grand-mère surtout. C'est là-dedans que j'avais dans les glacis ma cabane, à 50 mètres au-dessus de la mer. C'était des racines d'arbres qui étaient accrochées à la falaise, et sur laquelle eh bien, il y avait un tapis d'aiguilles de pin et de tout. Quoi. Voilà. Et c'est dans ces jardins aussi où on prenait des patins à roulettes, on mettait des planches sur ces patins et on se laissait glisser dessus dans les descentes qu'il y a dans le jardin. Ce n'était pas pour plaire aux gardes-jardins qui nous couraient derrière, évidemment, le pauvre, il faisait son travail.
Vous nous parliez des arbres sur la falaise, comme quoi on peut avoir des racines sur le rocher. Et c'est votre cas, Jean-Marc Ferrier.
Il y a 30 ans en arrière, Monacoville était un village. C'était vraiment la population locale, en l'occurrence mes arrière-grands-parents, qui avaient deux commerces. Mais avec l'expansion économique de la principauté, ça fait qu'aujourd'hui, sur le rocher, on va retrouver des Russes, des Anglais, etc. Donc ceux qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent se permettre d'acheter des appartements ici sur le rocher. On a besoin du Monaco Bling Bling, on en a besoin pour l'économie financière de la principauté, et il est évident, mais dans mon cœur, dans ma manière de raconter, je suis loin des clichés médiatiques de la jet set people, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait Caroline, Stéphanie, les enfants de Stéphanie, famille princière, bon ça va, moi je suis ancré uniquement sur l'historique, sur l'histoire de la principauté, voilà. Vous avez compris que c'est sur l'authenticité. Quoi. Mais justement, comme je fais partie du patrimoine humain, il est de mon devoir de transmettre ce que je connais de cette principauté qui a fait jadis l'histoire authentique. Donc même si je ne suis pas monégasque, j'en parlerai toujours avec le même enthousiasme.
Donc vous, Jean-Marc Ferrier, vous êtes né ici à Monaco, vous avez pendant 30 ans été pompier à Monaco, ça fait 4 ans que vous faites visiter votre Monaco à vous avec tout l'enthousiasme qu'on peut entendre. Mais Pour l'instant, le prince n'a jamais posé son cachet à vos demandes de naturalisation.
Bien oui, malgré ma quatrième lettre manuscrite, j'attends toujours la réponse pour savoir si je peux transmettre le dossier, et ça fait 4 ans. Mais je ne désespère pas, de toute manière, je suis quand même privilégié, et je suis très bien dans ce Monaco, même si c'est le Monaco moderne d'aujourd'hui.
Sur la route des contrastes à Monaco, dans les studios de France Bleu Azur à Nice, avec nos deux invités, Christophe Glasser, secrétaire général de l'Union des syndicats de Monaco, et l'historien Yvan Gastaud. Il faut commencer par là, Yvan Gastaud, pour comprendre Monaco et ses contrastes, les différents statuts de ceux qui y vivent et ceux qui y travaillent. Alors, notre guide Jean-Marc Ferrier est enfant du pays, ce n'est pas un statut légal en soi.
C'est un statut symbolique, effectivement. On voit que les Monégasques sont assez peu présents. Ils sont peu nombreux, d'ailleurs. Monaco a cette spécificité d'être un pays dans lequel, comme d'autres petits pays, les gens de nationalité monégasque sont moins nombreux que les étrangers. Donc ça, c'est une véritable spécificité, un peu comme le Luxembourg aussi.
C'est-à-dire, sur 37 000 habitants, il y a combien de Monégasques?
5-6 000, à peu près. Oui, hein, c'est ça, 5-6 000. Et donc voilà, une minorité au sein du pays, mais une minorité évidemment puissante au niveau du statut particulièrement, donc ça c'est un élément important. Donc ça veut dire qu'il faut s'intéresser aussi à tous ceux qui ne sont pas monégasques. Alors certains essaient de l'être comme notre guide, d'autres le sont, l'obtiennent pour des raisons diverses, notamment évidemment par la célébrité ou par la performance, hein, ça peut être le cas. Et puis il y a toute un monde autour, hein, qui est à Monaco, qui peut être quelque part considéré comme d'une certaine manière monégasque, hein, au sens de d'éprouver le territoire. Et effectivement, il y a cette dimension, d'un territoire qui est parcouru par des Français, des Italiens, qui s'approprient en quelque sorte les lieux. Le fait de travailler à Monaco, c'est vu comme étant une sorte de fait en soi et de promotion sociale très importante pour ces classes moyennes ou classes populaires qui vivent dans les environs.
Oui, finalement, les enfants du pays, ceux qui vivent à Monaco sans avoir le statut de monégasque, Christophe Glasser, ils sont un peu les garants d'une certaine encore mixité sociale, c'est un peu les classes moyennes de Monaco.
Oui, bon, enfin, il faut relativiser, c'est vrai que ça existe de moins en moins où les gens sont obligés de s'expatrier. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des communes limitrophes, mais maintenant les gens, pour venir travailler à Monaco, ben ils sont obligés d'aller habiter beaucoup plus loin. On a, ben bon, il y a Peille qui est proche, mais il y a Breil, je pense à Tende, je pense puis de l'autre côté.
Alors on est dans Nice, la vallée de la Roya, on est vraiment.
On monte la de vallée de la Roya, on part sur Nice, on part sur Cannes, voilà. Donc c'est vrai que finalement cette mixité, elle n'existe plus véritablement.
Alors comment peut-on obtenir la nationalité monégasque? Comment ça marche, la procédure?
Alors c'est une excellente question. Je pense que c'est surtout à discrétion. C'est vrai qu'il faut écrire au prince. C'est lui qui le formule. Après, est-ce que c'est une fin en soi de devenir de nationalité monégasque? À la limite, le tout, je dirais, c'est qu'au moins les gens soient reconnus, ceux qui participent à la création de richesses, et qui bénéficie d'un statut qui pourrait être quasi identique. Je crois que le plus important, c'est ça, puisqu'on n'a pas forcément envie de renier sa nationalité, mais c'est que c'est une nationalité qui offre un certain nombre de privilèges.
Voilà, il faut renier sa nationalité pour obtenir la nationalité monégasque. Il y a une enquête de moralité, plus ou moins, qui est faite sur chacun des candidats. Yvan Gastaud, vous avez l'air de connaître la procédure. Vous avez peut-être vous-même tenté le coup?
Non, j'ai pas tenté. J'aurais pu, hein, mais non, ça n'a pas été mon ambition. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a une sorte de prestige à devenir monégasque. Et je crois que tout tourne évidemment autour de la famille princière. Et quelque part, on le voit, Monaco, c'est le rocher. Hein. Le rocher avec des déclinaisons ensuite par cercle qui qui s'éloignent du rocher jusqu'à désormais, vous avez raison, des zones très éloignées qui gravitent autour de la principauté, y compris 30-40 kilomètres dans les terres. Et effectivement, je crois que le caractère monégasque est aussi le fait d'être près du prince. Hein, la cour, hein, d'une certaine manière, est un élément important. Et je crois que voilà, Monaco fonctionne aussi par ses cercles, je dirais, ses cercles de proximité vis-à-vis de la famille princière. Et cela n'empêche pas cependant le fait que, par exemple, très près du prince, le rocher, c'est aussi un lieu d'habitat populaire. Hein. On a encore sur le rocher des formes d'habitat qui sont très liées à la dimension ouvrière et des classes moyennes de Monaco.
Alors, les enfants du pays ont quand même droit à certains avantages, mais ils voient avec un peu d'amertume des étrangers richissimes, pour la plupart, obtenir la nationalité monégasque que eux n'ont pas, et tous les droits auxquels elle ouvre par simple mariage avec un ou une monégasque. En fait, il n'y a pas de droit du sol à Monaco. Christophe Glessler ?
Il ne faut pas oublier que Monaco, voilà, son prestige, toute sa force qu'elle a aujourd'hui, hein, le casino, on prend l'hôtellerie, on prend l'industrie, hein, c'est essentiellement des gens qui ne sont pas issus de Monaco, qui travaillent et qui ont fait que ça fonctionne et que ça fonctionne plutôt bien.
Je
pense que vous avez raison d'évoquer le fait que Monaco est un petit territoire, mais un territoire marqué par de multiples manières d'éprouver le territoire, de le vivre et de l'appréhender. Et quelque part, ces milieux sont évidemment assez peu capables de se rencontrer. Hein. Le petit peuple local a ses habitudes, a ses comportements, je dirais, ses manières d'apprécier et d'apprécier beaucoup la principauté. C'est aussi ça. C'est pas parce qu'on n'est pas monégasque qu'on a une rancœur. Je pense que le prince est apprécié par au-delà des monégasques, par tout ce petit peuple local, et en même temps, effectivement, peu de relations avec ceux qui sont aussi une autre part de Monaco, c'est-à-dire ce Monaco omniprésent dans la presse people, omniprésent dans les magazines, qui défraie la chronique en quelque sorte, et même s'ils ne se rencontrent pas, ces milieux se côtoient assez régulièrement, peut-être dans des salles de spectacle, peut-être sur le quai ou au stade de football. Donc tout ça sont des éléments qui font que voilà, on est dans une sorte de cosmopolitisme, mais aussi de brassage des classes sociales, même si évidemment dans certains milieux les espaces se referment. Hein. Donc voilà, Monaco c'est aussi ça.
Voilà, vous disiez, il y a ceux qui vivent, et notamment donc, dans ceux qui vivent à Monaco, il y a les monégasques, les enfants du pays et les résidents, c'est encore une autre catégorie, et puis tous ceux qui viennent chaque jour travailler à Monaco, évidemment sans pouvoir s'y loger. Martine Le Gall, nous nous sommes mises à l'abri de la circulation automobile, ce qui n'est pas
évident.
Ce qui n'est pas très évident ni à Monaco ni à Beausoleil, où nous sommes, puisque nous sommes dans la commune limitrophe de Monaco, côté est, côté Menton, Beausoleil. Cette frontière, elle est absolument pas visible en fait entre Monaco et la France, Monaco et Beausoleil.
Du tout, puisque les deux villes sont imbriquées l'une dans l'autre et il y a des quartiers qui sont très hauts et qu'on a l'impression que c'est Beausoleil. Non, c'est Monaco. Et inversement, il y a des quartiers beaucoup plus bas qui descendent sur la principauté et qui sont à Beausoleil.
Dans des zones urbanisées comme celle-ci, j'imagine que des immeubles sont situés pile sur la frontière.
Ah oui, tout à fait. Il y a des immeubles qui sont pile sur la frontière. Donc ce qui compte, c'est le portail d'entrée.
La frontière entre Beausoleil et Monaco n'est donc pas visible, elle n'est pas physique.
Voilà.
Elle est d'une autre nature.
Elle est d'une autre nature. Alors elle est d'une nature sociale. Évidemment, ce n'est pas du tout la même population qu'il y a à Beausoleil et à Monaco. Monaco, c'est évidemment une population très aisée. Mais il y a un point commun, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers. Et à Beausoleil, on a aussi une forte population étrangère, immigrée, qui est une population immigrée de travail.
Ce sont des gens qui travaillent à Monaco,
voilà,
et qui ne peuvent pas s'offrir le luxe d'y
ils
vivre.
Ils ne peuvent pas s'offrir le luxe d'y vivre. Et maintenant, en plus de ça, comme Monaco a une cherté de vie, et surtout de loyer qui est considérable, beaucoup de cadres refluent sur Beausoleil. C'est-à-dire que même à Beausoleil, il y a quand même maintenant une population qui se modifie.
Mais d'ailleurs, cette surenchère dans les loyers, la spéculation aussi sur les prix de vente de l'immobilier, elle n'a pas encore gagné Beausoleil, qui est vraiment juste à côté.
C'est-à-dire, elle se répercute sur Beausoleil. Plus cher qu'à Nice, plus cher qu'à Menton.
Peut-être dans la partie sud de la ville, car il y a ici, au sein de la commune de Beausoleil, une autre frontière. C'est celle qui partage le sud et le nord étant le quartier plus populaire.
Surtout au niveau du centre-ville, hein. Après non. Mais le centre-ville, vous avez le centre bourgeois, et vous avez le petit côté du Carnier qui se situe derrière la mairie. Donc on est toujours en centre-ville, où là, ce sont les communautés italiennes qui sont venues vers le milieu du 19e siècle d'Italie pour profiter de ces immenses chantiers qui avaient besoin, un chantier qui a duré à partir à peu près de 1860 jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. La société des Mains-de-Mer ne s'est jamais arrêtée de construire. Donc c'est un chantier colossal, et là, bien évidemment, ces gens qui ne pouvaient pas se loger en principauté se sont logés au plus près du chantier, c'est-à-dire sur la partie supérieure du centre-ville qui est vraiment à l'orée de Monte-Carlo. Voilà.
Donc d'abord une immigration italienne, et aujourd'hui, d'où viennent ces immigrés qui s'installent à Beausoleil ?
Alors, il y a eu plusieurs vagues. On a eu, après la communauté italienne, nous avons eu les gens qui venaient de l'Afrique du Nord. Pendant très longtemps, ils ont vécu dans des bidonvilles, en ville. Et ensuite, un des maires, M. Vanco, a créé pour eux le foyer Sonacotra, qui existe toujours, qui est légèrement excentré, parce qu'à l'époque, ça n'a pas été simple d'imposer. Et il a une vue plongeante sur toute la côte, l'Italie, Roquebrune, Monaco, Beausoleil. Enfin bref, voilà. Alors ça a été la première immigration. Et nous avons ensuite, alors on a eu une communauté espagnole qui, elle, est repartie chez elle. On a maintenant beaucoup de Portugais. Et on a alors des communautés qui sont vraiment, j'allais dire, de culture et de civilisations différentes de la nôtre, puisqu'on a beaucoup de Sri Lankais, on a des communautés d'Afrique noire, on a des Philippins. Ces gens viennent évidemment pour travailler sur la principauté. Mais ce qu'il y a de bien dans notre ville, c'est qu'il n'y a pas de lieu de relégation. C'est-à-dire la population est totalement intégrée dans la ville de Beausoleil. Ce qui fait qu'évidemment, les gens ne se sentent pas rejetés, les gens ont du travail. Et on a une paix sociale à Beausoleil, alors que vous savez qu'on est la première ville où la population immigrée est la plus importante, évidemment, relativement à la population. Voilà, plus que Marseille.
Martine Le Gall, Beausoleil, avant de s'appeler Beausoleil, le projet était de l'appeler Monte-Carlo supérieur. Ça ne devait pas vraiment plaire à Monaco, ça.
Monaco a refusé l'appellation.
Alors, aujourd'hui, la commune s'appelle Beausoleil, oui. Depuis un certain temps déjà, quand même. Alors, Beausoleil, encore faut-il le voir. Depuis le point où on s'est assis, on voit une tour immense, oui, qui s'est élevée, alors, assez récemment, vraiment sur la frontière entre Monaco et Beausoleil. C'est ce qu'on appelle la tour Odéon, oui, et qui, pour le coup, cache le soleil à ceux qui vivent derrière.
Ah, ça, j'allais dire, C'est le passage obligé lorsque vous acceptez de vivre soit à Monaco, soit à Beausoleil. Mais je veux dire, les gens de Monaco, j'allais dire quelque part presque les premiers concernés, peuvent s'attendre, même quelqu'un qui va acheter dans une magnifique résidence à des prix exorbitants, peut s'attendre à avoir du jour au lendemain, et ça arrive tous les jours, un immeuble qui va se construire, et les gens n'ont plus de vue. On peut le regretter. Moi, je le regrette parce que, bon, je suis très attachée à Monaco. Et c'est vrai que c'était un décor de théâtre. Moi, je l'ai encore connu comme ça. Mais je veux dire, faut pas être passéiste. C'est inévitable.
Vous êtes monégasque, Martine Le Gall ?
Pas du tout. Je suis française. Je suis née à Monaco. J'y ai fait toutes mes études primaires, secondaires. Donc, j'y avais tous mes amis. J'en ai encore beaucoup. J'y ai mes souvenirs d'enfance, de jeunesse, bien que visuellement je les ai plus parce que tout se détruit, tout se reconstruit. Je vois mon papa travailler à Monaco, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon mari, mon fils y a commencé sa carrière. Vous voyez, donc j'ai une attache affective.
Martine Le Gall, les jeunes de Beausoleil, et notamment ceux qui vivent dans ces quartiers populaires que vous nous avez décrits, Est-ce qu'à votre avis, il rêve de Monaco ?
Alors, le futur est là au niveau du travail. Voilà. Le but, c'est de trouver du travail en premier lieu en principauté. Mais au-delà de ça, je ne pense pas qu'il rêve de Monaco pour y vivre ou parce que tout simplement, on sait très bien que c'est inaccessible.
Et vous, Yvan Gasteau, qui avez grandi à Beausoleil, est-ce que vous avez déjà rêvé de Monaco quand vous étiez petit ou ado ?
Non, parce que j'y étais, donc j'habitais sur, enfin pas sur place, dans la proche banlieue. Donc,
mais vous touchiez du doigt une vie, vie particulière.
Oui, c'est vrai que, pour parler d'une expérience personnelle, le fait par exemple d'être au lycée de Monaco, de ne pas être dans le giron monégasque, c'est une sorte déjà de mise à distance, on pourrait dire. Donc on ressent effectivement le fait que c'est une société pyramidale, hein, et que quelque part ne pas faire partie de l'entité monégasque en tant que nationalité ou même, je dirais, en tant que classe sociale, ça relègue beaucoup. Et donc ceux qui habitent autour ont pour vocation, dans la promotion sociale qu'on envisage pour ces enfants, de faire en sorte que les enfants travaillent très près à Monaco sans quitter le giron familial, parce que quelque part on est dans une sorte de famille, comme le disait très bien Martine Le Gall, quand on regarde cette agglomération monégasque, on sait pas trop où est la frontière, il y a la France, il y a la Monaco, donc tout ça est totalement imbriqué. Et donc oui, quelque part on peut penser à un rêve sur place, c'est ça qui est intéressant pour ceux qui habitent très près, qui viennent souvent sans trop d'argent pour s'installer autour de Monaco. Il y a ce rêve très proche qu'on peut essayer de toucher du doigt, mais comme le disait Martine Le Gall, c'est évidemment très très difficile, et pour atteindre un certain nombre de milieux, c'est quasiment impossible.
Quand on est jeune et qu'on se dit que peut-être plus tard on travaillera à Monaco, il vaut mieux se tenir à carreau. Christophe Glassard, je crois que certains délits peuvent être rédhibitoires en fait pour travailler ensuite sur la principauté.
Oui, tout à fait. Il faut faire attention. Et c'est vrai que quand on est jeune et quand on vit dans les communes limitrophes, forcément, à un moment donné, on y va, on consomme, on a des amis, on va au lycée, on va... Oui, on essaye de faire attention parce que comme l'a dit Martine Le Gall, c'est assez poignant comme témoignage, ça fait presque mal au cœur de se dire que c'est un rêve que les gens veulent toucher, qu'ils touchent du doigt, mais ils ne peuvent pas y accéder. Et alors qu'en fait, leur seul besoin, c'est juste de travailler, de s'en sortir et d'avoir une vie qui est toujours plus belle, pas forcément de devenir riche. Oui, quelques-uns, c'est aussi le rêve américain, Monaco, c'est voilà, les belles voitures, c'est... Mais dans son témoignage de Martine Le Gall, c'est surtout dire les gens, ils ont besoin juste de travailler. Mmh. C'est un bassin d'emploi et forcément, on en a besoin parce que tout autour, il n'y a pas grand-chose.
Yvan Gasteau.
On a quelques exemples, Julie, de la manière dont peut-être certains peuvent dépasser ces clivages. Je prends un cas assez emblématique, c'était l'ancienne de la princesse Stéphanie qui s'appelait en tant qu'époux, mais qui est toujours évidemment dans la région, Daniel Ducruet, qui est un enfant de Beausoleil qui a épousé la princesse et qui est entré dans le cercle fermé, mais il n'y est entré qu'un temps puisque l'idylle s'est arrêtée. Mais les deux enfants de Stéphanie sont issus d'un couple qu'elle a développé avec un Beausoleillois, donc c'est une véritable, je dirais, une sorte de clin d'œil à ce clivage, puisque là évidemment il a été rompu par l'amour en quelque sorte et par le lien qu'elle a pu développer pendant quelques années avec cet enfant de Beausoleil.
Des petits gars de la banlieue populaire qui accèdent à
pas
ce
facile,
rêve américain.
Hein. Il n'a pas pu rester, hein, il n'a
ouais,
pas pu tenir.
Lui non. Bon, Martine Le Gall nous parlait aussi de l'exode des cadres. C'est assez significatif quand même du caractère invraisemblable en fait des prix des loyers à Monaco, juste peut-être pour se donner une idée. Je crois qu'on parle de 4 à 9 000 euros par mois pour un 3 pièces à Monaco. Est-ce qu'il existe des HLM monégasques ? Ça existe ou pas ?
Alors c'est un peu, il y a effectivement deux styles de logements, on va dire plutôt sociaux. Il y a pour les monégasques qu'on appelle les domaines, hein. Et puis après il y a les caisses sociales qu'on crée il y a quelques années par la Caisse autonome des retraites, des logements, hein, qui sont normalement à loyer modéré pour les actifs, mais qui finalement aujourd'hui ne correspondent plus parce que on augmente les loyers et les gens ils sont obligés de s'éloigner de Monaco. Elle parlait donc des cadres. Effectivement, on prend le secteur bancaire, hein, puisque c'est là où on en trouve un petit peu plus qu'ailleurs, eh ben, les cadres de banque aujourd'hui n'habitent plus forcément Monaco. Hein. Ils sont obligés d'aller sur les communes comme Beausoleil ou Cap d'Ail, qui est quand même aussi proche, Roquebrune.
Yvon Gaston.
Martine Le Gall l'a dit, hein, Beausoleil, par exemple, est une ville très très ouvrière dans son entité, puisque lorsqu'elle est créée en 1904, la grande majorité des habitants de Beausoleil, ce sont des Italiens. Hein, donc les Français sont très peu nombreux à Beausoleil. Donc il y a cette entité français, monégasque, italien qui compose le bassin à ce moment-là. Et aujourd'hui, vous vous promenez, comme vous l'avez fait à Beausoleil, et vous êtes à quelques pas du casino, et vous êtes encore dans des anciennes habitations très très populaires, pour pas dire de type bidonville, comme disait Martine Le Gall. Et donc il y a effectivement ce contraste énorme hein, entre des zones presque encore rurales avec un habitat très 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 populaire et puis ce luxe, cette richesse concentrée en très peu d'espace. Hein. En quelques pas, on fait le luxe total à la grande, alors je dirais pas à la grande misère, mais à une sorte de popularité au niveau du logement qui prouve bien la pression que représente ce problème du logement sur place. Et paradoxalement, effectivement, Beausoleil est une ville cosmopolite, est une commune très cosmopolite. On l'a dit, toutes les nationalités représentées, proches de Monaco. Et en même temps, cette présence populaire n'empêche pas que les loyers soient très très hauts et que pour se loger à Beausoleil, mieux vaut habiter comme moi à Nice, par exemple.
Ah, vous vivez à Nice, vous faites quand vous allez à Beausoleil, évidemment, vous faites le.
Mais enfin bon, pas si loin.
Les trajets en voiture sont quand même un peu compliqués dans ce coin-là, la côte.
Scooters.
Je crois que Christophe Glasser préfère le train.
Il a raison.
pour relier Monaco. Alors, il doit quand même y avoir quelques personnes qui peuvent s'offrir un logement à Monaco, puisque Monaco est en chantier permanent. Alors, on parlait de cette tour Odéon qui a, je crois, pris 3 ans de travaux. Le bruit est sans cesse. Enfin, il paraît que même les riches personnes qui souhaitaient venir s'installer là pour trouver de la sérénité et du calme en sont un peu à leurs frais, parce qu'en réalité, le bruit est permanent, on est toujours en chantier. Et évidemment, le fait que ce territoire soit passé en quelques années de 2 km² à 2,2 km² aussi en mangeant sur la mer, eh bien, ça ne s'est pas fait tout seul, Christophe Glasser. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'ouvriers du bâtiment qui travaillent aujourd'hui à Monaco, à peu près ?
Oui, les ouvriers du bâtiment, ça a à peu près à la louche 3000 personnes. Avec des populations qui varient. Hein. C'est vrai que les Italiens, quand ils sont arrivés, bah, c'est eux hein, essentiellement qui ont été appelés pour la construction. Aujourd'hui, on a parlé de la population portugaise. Bon, c'est un petit peu plus les Portugais. Il y a aussi des Français hein, qui ont des compétences dans ce domaine.
Et des Monégasques, il y en a ?
Des Monégasques, à ma connaissance, pas trop. Après, bah, c'est souvent eux qui gèrent plutôt l'entreprise, on va dire. Donc, voilà. Mais c'est vrai que tout ce Monaco, c'est des chantiers permanents. Ça crée notamment de l'emploi. Donc, c'est tout de même beau. Hein. Et Monaco, je pense qu'a besoin. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un territoire concentré qui ne peut pas s'étendre. Donc, il faut forcément soit monter en hauteur, soit sur la mer.
Jacques Seragli, vous avez exercé pendant 33 ans une profession qui peut-être, un jour n'existera plus à Monaco quand la principauté aura grignoté sur chaque parcelle de libre pour construire des immeubles. C'est le métier de jardinier à Monaco.
Oui, je ne pense pas parce que je vous dirais le prince Albert, il tenait énormément au jardin. Ça fait qu'ils se sont développés en continuité. Et vraiment une qualité exemplaire.
C'était les jardins publics dont vous vous occupiez ?
Jardins publics. En plus, il faut dire qu'à Monaco, il y a les jardins du casino, les jardins de la mairie, les jardins exotiques et les jardins du palais. Oui, il y en a des jardiniers.
Il y a aussi quelques jardins privés de grandes villas.
De moins en moins à Monaco, parce que quand je suis arrivé, c'était plein de villas avec le jardin. Maintenant, c'est les buildings. Les jardins ont disparu, les petits jardins particuliers ont disparu.
Jacques Seragli, vous dites, quand je suis arrivé, c'était oui. Quand ?
Janvier 1960. Il y avait mes parents qui sont venus avec moi, et puis ils sont partis, moi je suis resté. Mon père, il pleurait à chaudes larmes.
Qu'est-ce qui vous a conduit à vous installer, à quitter l'Italie pour venir travailler à Monaco ?
Ben, ce qui m'a poussé, c'était les conditions difficiles qu'il y avait en Italie. Donc, ma tante, qui habitait là depuis avant la guerre, m'a proposé de venir chez elle. Elle m'a logé, m'a nourri pendant un an avant que je me marie. Et voilà, c'est pour ça que j'ai migré, si on peut dire. Ben, mais c'était pas une immigration difficile.
Vous avez immigré ici, à Cap d'Aille.
Donc on est. L'avenue Jacques Cap, juste au-dessus. Là où j'habite, on peut dire que c'est un quartier italien. Et les immigrés italiens, ici, ils ont fait vivre le quartier parce qu'ils ont développé des commerces. Il y avait 5 épiceries, il y avait des bars, il y avait aussi le coiffeur, tous des Italiens. Ils ont animé le quartier. À Monaco, il y avait presque 9000 Italiens, moins des Français, mais presque pareil, et 1700 Monégasques, pour vous dire. Mais ils travaillaient à Monaco, mais beaucoup venaient ici. Voilà.
Est-ce qu'à l'époque, ça avait été un choix de la part de votre tante et ensuite de vos parents de vous installer à Monaco parce que Monaco était un Eldorado déjà dans les années 60?
Ben, c'est-à-dire, Monaco, il s'est développé énormément les industries à Monaco dans les années 60 jusqu'à l'an 75, quand il y a eu la crise pétrolière. Il s'est développé, il y avait beaucoup d'industries, beaucoup de petites usines, le bâtiment qui marchait à fond. Ils avaient besoin de main-d'œuvre, donc c'était facile de trouver du travail. Le nuit ce matin, si vous ouvrez, il y avait deux grandes pages et des offres d'emploi.
Quand vous avez cherché un emploi, au départ, ce n'était pas forcément comme jardinier. Vous avez commencé avec un métier assez insolite.
Pardon. J'étais prêt à prendre n'importe quoi. La preuve, c'est que j'ai accepté ce travail de boucher, là, que franchement, c'était vraiment désastreux.
De boucher?
L'usine de foie, là, le foie de buffle.
Alors, racontez-nous, en fait, au départ, vous avez travaillé avec quelqu'un qui faisait un sérum, un médicament avec du foie de buffle.
Oui, faisait l'extrait de foie de buffle. C'était des vitamines. Et il y avait des employés qui prenaient l'extrait une fois sorti pour le mettre dans la soupe des enfants. Mais les odeurs qu'il y avait dans cette... J'étais prêt à repartir, là. Si je ne trouvais pas autre chose, je repartais. Après, bon, le jardin, c'était autre chose. C'était bien, c'était en plein air. Il y avait moins de circulation que maintenant. Après, c'était devenu compliqué parce qu'on vous fait des tuyaux d'échappement toute la journée, hein, dehors. Voilà.
Jacques Seragli, en tant que travailleur à Monaco, est-ce qu'il a fallu de temps en temps vous battre pour vos droits?
Battre sur le plan syndical, oui.
Vous étiez syndiqué?
Syndiqué et même délégué du personnel. Et même le secrétaire général du syndicat des jardiniers.
En tant qu'agent d'État, à Monaco, vous étiez bien payé?
Oui. À Monaco, en plus des salaires, il y avait une indemnité compensatrice. Avant, il y avait des primes de nuit, des primes d'insalubrité, des primes de pénibilité. Cette masse d'indemnité représentait à l'époque 16% du salaire. Alors, ils l'ont généralisé à tout le monde. Et puis, de 16%, ça a été porté à 25%. Donc, vous voyez, on avait 25% en plus du salaire, et en France, ça n'existait pas. Non, franchement, j'ai fait un bon choix.
Depuis votre fenêtre, Jacques Seragli, on ne voit pas la mer.
Je n'avais pas cette maison en face, vous voyez, là. C'était fait après.
Quand vous êtes installé, il n'y avait pas la petite maison en face?
Non, et là, malheureusement, ça m'a occulté la vue.
Mais est-ce que vous les aimeriez les regarder tous les jours, ces énormes yachts qu'il y a dans le port de Monaco?
Ça me fait un peu râler. Quand je vois la misère du monde et que on voit tout ça, enfin, ça fait travail vraiment, hein, parce que les gens sont des ouvriers. Mais bon, là, je dois beaucoup la pensée. Mon épouse et moi, beaucoup la pensée portée. Tout Cap d'Aille, Beau Soleil, Menton, Nice et Ventimiglia. Ça, il faut le reconnaître. C'est un bassin d'emploi.
Ce n'est pas qu'un bassin de yacht, c'est aussi un bassin d'emploi.
43 000 salariés, c'est pas rien. Non, c'est bien pour nous. C'est bien.
Je me tourne vers vous, Christophe Glasser, secrétaire général de l'Union des syndicats de Monaco. C'est vrai que tous ceux qui travaillent à la principauté ou qui y ont travaillé, quels qu'aient été leur salaire ou leurs conditions de travail, tiennent à nous dire qu'ils leur doivent beaucoup à la principauté.
Oui, mais je crois que l'inverse aussi est vrai, c'est-à-dire que Monaco doit beaucoup à ses salariés. Ce témoignage émouvant, c'est jardinier, un des jardiniers hein, donc de l'État. Il participe au rayonnement de Monaco. Et donc, si Monaco a un tel rayonnement, c'est parce que elle a des jardins qui sont magnifiques, parce qu'elle a des bâtiments qui sont bien réalisés, parce qu'elle a des hôteliers qui sont professionnels, parce qu'elle a des, voilà, toute une série de d'hommes et de femmes qui s'investissent vraiment et permettent, parce que si finalement cette main-d'œuvre n'existait pas, si les gens n'étaient pas aussi attachés au travail bien fait, Monaco n'aurait jamais connu le succès qu'elle a aujourd'hui.
D'ailleurs, le premier immigré italien qui a contribué au succès de Monaco, c'est quand même Jean-Baptiste Pastore, arrivé d'Italie avec une brouette,
oui,
Yvon Gasteau.
Oui, il y a cette, je dirais, cette tradition du travail bien fait à Monaco. Jacques Serragli le représente tout à fait, c'est-à-dire cette volonté de travailler au mieux et de produire le meilleur de soi-même, évidemment, avec des salaires améliorés. Hein. C'est aussi ça qui attire vers la principauté, c'est qu'on peut gagner mieux qu'en France. Alors aujourd'hui, on le voit, ceux qui travaillent à Monaco ont un statut relativement, je ne dis pas aisé, mais un statut qui les laisse quand même dans une sorte de situation assez confortable. Ce qui n'était pas le cas il y a plus d'un siècle, et il n'était pas rare de voir dans les archives des mendiants, des gens qui faisaient la manche, qui étaient des clochards sur le rocher, qui dormaient sur des bancs, etc. Donc la principauté, aujourd'hui, n'a pas cette difficulté, en quelque sorte, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 100 ans, on était très pauvres à Monaco, et parfois, il y avait des problèmes d'hygiène et de santé publique en principauté.
Christophe Glasser, aujourd'hui, les salariés et les ouvriers, parce qu'on ne l'a pas assez dit, mais il y a des usines à Monaco. Mmh. Yvon Gasteau a commencé par là. Les salariés ont donc une sécurité sociale aussi plus avantageuse, des allocations familiales progressives avec l'âge et versées dès le premier enfant, la perspective d'une pension de retraite assurée. D'ailleurs, est-ce que les retraites sont calculées comme en France? Est-ce que le mode de calcul est le même? Et qui paye les retraites des salariés monégasques quand ils sont français, par exemple?
Non, c'est vrai qu'on a su conserver des avantages sociaux. On s'est battu, hein, le remboursement des médicaments, c'est 80%. Le gouvernement a voulu descendre à 70%. Il y a eu des mobilisations, on est remonté à 80%. Les allocations familiales, oui, on s'est battu pour qu'elles soient à une vraie hauteur, même s'il n'y a que les hommes, hein, en fait, qui travaillent à Monaco, qui peuvent en faire bénéficier le foyer. C'est-à-dire que la femme n'est pas reconnue comme le chef de foyer encore. Hein,
encore des droits à acquérir.
Hein. Voilà, encore des vieilles traditions. Pas féodales, mais en tout cas, des vieilles traditions. Un peu plus avantageux qu'en France, même si on suit le même déclin. On parle des remboursements des médicaments en France, hein, certains qui ne le sont plus. Monaco, on suit la même liste. Donc en fait, on a tout de même un impact. La retraite, c'est pas le même fonctionnement. C'est pas par capitalisation, hein, par répartition, mais c'est par points. Ceci étant, on a eu une réforme là, il y a quelques temps où on a toujours le droit de partir à 60 ans sans abattement, mais au final, à carrière égale, aujourd'hui, enfin, ou en tout cas pour moi, hein, il faudra que je fasse 7 ans de travail de plus pour acquérir le même nombre de points que celui qui a fait le même emploi avant moi.
Et encore faut-il ne pas être intérimaire, sinon c'est l'horreur. Yvon Gasteau ?
Oui, je dirais, cette identité populaire et ouvrière de Monaco, elle se traduit aussi par des figures, par des lieux aussi hein, fréquentés, notamment dans les loisirs. Hein, je pense les clos de pétanque, les lieux effectivement où on se retrouve pour passer du bon temps entre ces ouvriers ou ceux qui habitent dans le coin, et notamment l'Union des syndicats monégas, qui est effectivement, je crois, une très forte identité, hein, puisque l'un des grands anciens, malheureusement disparu, Roger Benatti a été maire de Beausoleil pendant un temps et ensuite grand leader hein, de l'USM. Et donc je crois que ce syndicat, même si on en parle peu en dehors, dans Monaco, il a une grande place. Et ça, c'est un élément très important parce que ça marque une identité sociale et ouvrière assez forte qu'on a tendance à oublier.
Est-ce que tous les ouvriers et salariés de Monaco sont syndiqués, Christophe Glasser? Enfin, quelle part, allez,
dans,
on va demander.
Dans l'âme, après, dans la pratique, on est plus de 2600, mais il y a un gros turnover à Monaco, ce qui fait que ça rend plus difficile aussi la syndicalisation.
Pour conclure, qui sont les jeunes qui peuvent se permettre de rester à Monaco? Yvan Gastaud.
Oui, ben les jeunes ne sont pas mal lotis à Monaco. Ils souffrent peut-être assez paradoxalement d'un certain isolement par rapport à... Alors c'est pour ça qu'ils viennent souvent à Nice, parce que quelque part à Monaco, on est un peu loin du monde tout en étant au cœur de l'actualité. Voilà le paradoxe.
Et quand ils viennent notamment étudier à Nice, Sophie Antipolis, eh bien ils peuvent vous avoir comme professeur.
Ah oui, ça ce serait bien.
Merci beaucoup Yvan Gastaud, historien de l'époque contemporaine, d'avoir été avec nous ce soir. Et à vous, Christophe Glasser, secrétaire général de l'Union des syndicats de Monaco. Je rappelle que sur la route à un compte Twitter et un compte Instagram pour suivre nos découvertes et nos rencontres en direct, notamment à Monaco, eh bien il faut chercher Julie Gacon. Et puis vous pouvez bien sûr commenter ou podcaster cette étape monégasque ou les émissions antérieures sur le site de France Culture, où nous mettons en ligne les références de vos ouvrages, Yvan Gastaud. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à l'équipe de France Bleu Azur pour son accueil. À la technique, c'était Yann Maran. La semaine prochaine, nous serons sur la route de l'étang de Berre, au-delà des activités industrielles, des habitants qui se battent pour sa réhabilitation. Il est bientôt 19h, l'heure de retrouver sur France Culture Marie-Hélène Fraissé pour Tout un Monde.